Bonjour madame, messieurs, merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du Monde aujourd'hui. Au micro de Nanit Talani, il est 7h en temps universel. Voici les grandes lignes de cette session d'information. Conflit RDC-Rwanda, une trêve humanitaire évolue vers un cessez-le-feu sous médiation angolaise. L'ONU suspend l'embargo sur les armes pour la Centrafrique. Un tournant historique pour Bangui. Au Soudan, l'armée demande des consultations avant les pourparlers de cessez-le-feu. Brouille diplomatique entre la France et l'Algérie après le soutien de Macron au plan marocain. Dans nos dossiers du jour, nous verrons des progrès dans la lutte contre le VIH-Sida en Afrique du Sud. Et puis campagne présidentielle aux États-Unis, Trump attaque Kamala Harris sur son bilan migratoire. Au JO à Paris en football, le Maroc termine en tête le groupe B, l'Égypte surprend l'Espagne et basket, la France et l'Allemagne se qualifient pour les quarts de finale. En attendant, voici le journal. Un accord de cessez-le-feu a été conclu entre Kinshasa et Kigali dans le conflit qui oppose l'armée congolaise à la rébellion du M23 appuyée par le Rwanda au nord Kivu dans l'est de la RDC. C'est ce qu'a annoncé hier le médiateur angolais. Le cessez-le-feu prendra effet à minuit le 4 août 2024, a indiqué la présidence angolaise. La trêve sera supervisée par le mécanisme de vérification ad hoc qui sera renforcé, a précisé Luanda, en référence au système de pacification déjà créé en réponse aux violences. L'accord doit intervenir à la suite d'une trêve humanitaire de 15 jours qui arrivera à échéance le 3 août à 23h59 local. La trêve engage les belligérants à faire taire leurs armes et à fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables, d'après le Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Toujours en RDC, au moins 25 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau surchargé appelé Baleinière sur le fleuve Congo dans le centre-est du pays. Rosine Munezero pour plus de détails.
Le naufrage a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, à proximité de la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, dans le centre-est. Nous avons repêché 25 corps, a déclaré Moussa Kabwankumbi Moïse, gouverneur du Maniema, précisant qu'il s'agissait d'un bilan provisoire. Il indique que la navigation nocturne et la surcharge de la baleinière seraient les causes principales du naufrage. Un nombre inconnu de passagers sont portés disparus, a dit le maire de Kindu, Augustin Moulamba Atibou, qui affirme que les recherches pour retrouver d'autres corps continuent. Il n'existerait selon lui aucune liste de passagers ou manifeste permettant d'estimer le nombre de disparus. Le gouverneur du Maniema a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête. La RDC compte très peu de routes praticables et les déplacements se font souvent sur les lacs ainsi que sur le fleuve Congo et ses affluents, où les naufrages sont fréquents avec des bilans souvent lourds. Au moins 28 personnes avaient péri en octobre dans le naufrage d'une baleinière sur le fleuve Congo dans la province de l'Équateur.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé l'embargo hier, l'embargo territorial sur les armes visant la Centrafrique. Une victoire diplomatique pour Bangui qui dénonçait une sanction injuste, même si les forces gouvernementales en étaient exclues depuis un an. Les précisions de Jean-Roger Bian.
Dans une résolution adoptée à l'unanimité, le Conseil décide de lever l'embargo sur les armes, mis en place en 2013 après le début de la guerre civile. Il décide toutefois dans le même temps d'interdire jusqu'au 31 juillet 2025 les ventes d'armes à destination des groupes armés opérant dans le pays. Une interdiction de fait déjà en place, cette victoire diplomatique constitue une première étape qui redonne dignité à la République centrafricaine et à son peuple, en faisant de la diplomatie centrafricaine un modèle de persévérance et de détermination dans la quête d'un monde plus juste, a commenté la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baipo-Témon, à l'issue du vote, saluant un tournant historique. L'ambassadeur russe Vassili Nebenzia a lui estimé qu'il serait également peut-être opportun de lever l'embargo sur les armes contre les groupes armés illégaux. Cet élément du régime de sanctions a depuis longtemps perdu sa pertinence, a-t-il insisté, notant que cela n'empêchait pas les criminels de s'approvisionner. La Centrafrique est en proie à des guérillas multiformes menées par des rebelles ou des groupes armés contre les forces armées.
Au moins 6 civils ont été tués hier par des tirs de drones à Tinzawaten, une localité dans le nord du Mali où l'armée malienne et ses alliés russes ont subi un gros revers et de lourdes pertes samedi lors de combats contre des séparatistes, assurent des élus et des séparatistes. Les FAMA soutiennent, en coordination avec les forces armées du Burkina Faso, avoir débuté ce mardi 30 juillet une campagne aérienne dans le secteur de Tinzawaten pour sécuriser les personnes et les biens de la localité et ses environs contre la coalition de terroristes auteurs d'exactions, d'abus et de trafic illégal contre les populations maliennes. Elle est menée conformément à la solidarité entre les États membres de l'Alliance des États du Sahel et en application du mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle. En Guinée, les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile rejettent le projet de constitution présenté la veille par la junte qu'ils accusent de vouloir se présenter aux élections contrairement à leurs engagements. Les autorités guinéennes, dominées par les militaires, ont présenté lundi un avant-projet de constitution qui devrait être soumise à référendum avant la fin de l'année. Nous y reviendrons en partie magazine. Au Soudan, le ministère des Affaires étrangères, fidèle à l'armée en guerre contre les paramilitaires, a annoncé hier vouloir plus de discussions avant de répondre positivement à l'invitation de Washington à des pourparlers de cessez-le-feu prévus en août. Les détails avec Mamadou Oufa.
Toute négociation avant le retrait complet et l'arrêt de l'expansion des forces paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo ne sont pas acceptables, a indiqué hier le ministère dans un communiqué. Dimanche, ce ministère avait demandé des consultations avec le gouvernement soudanais sur la forme et l'ordre du jour et une réunion avec les États-Unis avant de futures négociations. Il y a une semaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a convié l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide à ses pourparlers censés débuter le 14 août à Genève en Suisse. Le jour même, le général Hamdan Daglo, chef des FSR, avait salué l'invitation de Washington et annoncé la participation de ses forces. Ces pourparlers, coparrainés par l'Arabie Saoudite, doivent inclure l'Union africaine, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'ONU en tant qu'observateurs, avait indiqué M. Blinken. Il vise à parvenir à une cessation de la violence à l'échelle du pays et de permettre l'accès de l'aide humanitaire, selon le chef de la diplomatie américaine.
Brouille diplomatique entre la France et l'Algérie après le soutien d'Emmanuel Macron au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Ce plan a été rendu public symboliquement mardi, le jour même du 25e anniversaire de l'intronisation du roi du Maroc. Les précisions de John Lindon.
Alger a aussitôt annoncé le retrait avec effet immédiat de son ambassadeur en France. Auparavant, Rabat a fait savoir que le président français a adressé à Mohamed VI une lettre dans laquelle Paris reconnaît désormais ce plan datant de 2007 comme la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Avant même l'annonce de la lettre au roi, Alger avait indiqué que le gouvernement tirerait toutes les conséquences qui vont découler de cette décision française. Mardi, en fin d'après-midi, la France a indiqué avoir pris note de la décision de l'Algérie de rappeler son ambassadeur tout en se disant déterminé à approfondir sa relation avec l'Algérie pour en faire bénéficier les peuples français et algériens. À l'Élysée comme au Quai d'Orsay, on fait valoir que les relations bilatérales entre la France et l'Algérie et celles entre la France et le Maroc sont traitées séparément et qu'on entend poursuivre le travail avec Alger.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, le Sénat approuve une série de mesures visant à protéger les enfants sur Internet. Il s'agit du premier texte d'envergure ciblant l'industrie technologique aux États-Unis, davantage avec Alexandrine Holognon.
C'est un jour exceptionnel, a réagi le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer. Le texte, soutenu par des élus républicains et démocrates, obligerait les plateformes à mettre en place des dispositions pour protéger les mineurs des contenus problématiques et dangereux, relevant notamment de l'exploitation sexuelle, du harcèlement en ligne, de la promotion du suicide et des troubles de l'alimentation. Elle limiterait également la capacité des utilisateurs à communiquer avec des enfants via des messageries en ligne et imposerait un meilleur contrôle parental. Un autre volet du texte renforcerait quant à lui les normes de confidentialité pour les mineurs et interdirait la publicité ciblée pour les enfants en ligne. Le volet adopté mardi par le Sénat fait cependant face à l'opposition d'associations de défense des droits des minorités et de la liberté d'expression qui craignent que ces lois ne renforcent l'isolement de certains adolescents. Microsoft, X et Snap se sont dit favorables au texte, tandis que Meta, qui comprend Facebook et Instagram, et TikTok n'ont pas affiché de soutien clair. Ce texte doit désormais être approuvé à la Chambre des représentants.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, le journal des JO qui vous plonge dans l'intensité des compétitions olympiques. Hier, le Maroc et l'Égypte se sont distingués en football, tandis que Simone Biles a enrichi son palmarès en gymnastique avec une 5e médaille d'or. En basketball, les équipes françaises et allemandes avancent vers les quarts de finale avec Stephen Curry prêt à briller. Restez avec nous pour découvrir les temps forts de cette journée olympique du 30 juillet 2024 avec Eric Manirakiza.
Démarrons avec le football. Le Maroc a triomphé de l'Irak avec un score de 3-0, terminant en tête du groupe B devant l'Argentine, qu'ils avaient déjà battu 2-1 lors de leur premier match. En groupe C, l'Égypte a créé la surprise en s'imposant 2-1 contre l'Espagne, s'emparant ainsi de la première place. L'équipe d'Espagne, malgré cette défaite, a tout de même obtenu sa qualification pour les quarts de finale. Dans le groupe A, les États-Unis ont battu la Guinée 3-0, éliminant ainsi l'équipe africaine de la compétition. Le Mali n'a pas pu se qualifier après sa défaite 1-0 face au Paraguay. De son côté, l'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale après une victoire nette contre la Nouvelle-Zélande 3-0 et se prépare à affronter l'Argentine. La superstar de la gymnastique Simone Biles a renoué avec son histoire d'amour pour les Jeux Olympiques en décrochant une 5e médaille d'or mardi à Paris dans l'épreuve par équipe, 3 ans après son effondrement psychologique à Tokyo. Avec également Sunisa Lee, les Américaines ont remporté le concours par équipe, offrant à Biles une 5e médaille d'or, la 8e, tous métaux confondus. Les Américains ont en revanche perdu leur porte-drapeau Coco Gauff, éliminé prématurément du tournoi de tennis sur la terre battue de Roland-Garros. Léon Marchand a réussi mardi soir la 3e des 4 étapes de sa folle journée en se qualifiant pour la finale du 200 mètres papillon des JO de Paris, une grosse heure avant de replonger sur 200 mètres brasse. Dans une arène, la défense en effervescence, le champion olympique du 400 mètres, 4 nages, a bouclé la distance en 1 minute 53 secondes 50, deuxième chrono des demi-finales, près de 2 secondes plus vite qu'en matinée. Les basketteurs français, en battant miraculeusement le Japon 94 à 90 et allemands en venant à bout du Brésil 86 à 73 en soirée, se sont qualifiés pour les quarts de finale des Jeux Olympiques, dont s'est rapproché le Canada en battant l'Australie 93 à 83. À l'issue des matchs joués mardi dans le tournoi de basketball masculin des Jeux Olympiques de Paris, l'attention se tournait vers Stephen Curry. En quête de la médaille d'or olympique qui manque à son impressionnant palmarès, Curry, l'un des meilleurs meneurs de l'histoire, se prépare à affronter le Soudan du Sud mercredi à 21h au stade de Pierre Moret. Après un début de tournoi plutôt discret, il espère marquer les esprits avec une performance éclatante. Athlètes et spectateurs ont affronté de fortes chaleurs avec des températures pouvant monter jusqu'à 35 degrés Celsius. Les compétitions ont été épargnées par les orages alors qu'une alerte avait été diffusée par les services de la météorologie. Avant de nous quitter, 8 pays ont dépassé la barre des 10 médailles au total, avec les États-Unis en tête, totalisant 26 médailles. Le pays hôte, la France, se classe deuxième avec 18 médailles. Cependant, le Japon est en tête pour les médailles d'or, ayant remporté 7 titres devant la Chine et la Corée du Sud, qui ont chacune une médaille d'or d'au moins. Les États-Unis ont décroché le plus grand nombre de médailles d'argent et de bronze, avec 11 dans chaque catégorie. Sur le plan africain, seule l'Afrique du Sud a remporté une médaille d'or ainsi que 2 médailles de bronze. La Tunisie et l'Égypte ont chacune obtenu une médaille de bronze.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani toujours avec vous. Place à nos dossiers du jour. En Guinée, les autorités de la transition ont présenté lundi un avant-projet de nouvelle constitution qui devrait être soumise à référendum dans les prochains mois. Composé de 205 articles, cet avant-projet prévoit notamment une limitation des mandats à 2, l'instauration d'un système de parrainage pour l'élection présidentielle, un âge minimum de 35 ans et de 80 ans maximum pour se présenter. Pour une analyse, Mouamadou Oumfa a joint à Conakry l'analyste politique Cabinet Fofana.
Effectivement, l'avant-projet de constitution a été présenté hier par le CNT. En termes d'innovation, c'est d'abord l'institution d'un Sénat qui va être composé de personnalités issues de la société civile, mais aussi d'une partie qui sera nommée par le président de la République. La proposition est donc d'avoir un système bicaméral qui consacre donc une assemblée nationale et un Sénat. L'autre innovation, c'est la possibilité qui est donnée aux candidatures indépendantes aux élections nationales. Désormais, on peut être présenté par un parti politique pour se présenter tout simplement indépendant si on a notre âge qui est compris entre 35 ans et 80 ans au plus.
Justement, pour être candidat, il faudra désormais avoir 80 ans au plus, ce qui exclut l'ancien président Alpha Condé. Par contre, si cet avant-projet est adopté en l'état, le président Doumbouya et les membres du gouvernement de la transition pourront se présenter puisque la charte de la transition sera abrogée. Un commentaire ?
Généralement, ces limites de l'élection présidentielle peuvent viser une personne, une autre, en fonction un peu des intérêts. C'est une proposition qui a fait justement que le président de la République n'ait pas plus de 80 ans. Alors, est-ce que ça exclut Alpha Condé si c'est maintenu comme ça ? Oui. Est-ce que pour autant, ça laisse la possibilité au président Mamadi de se présenter, je dirais non, parce que ça ne dit pas textuellement cela. Je pense qu'il faudrait plutôt voir autre disposition pour pouvoir penser que cela est érigé pour lui permettre de se présenter. Pour le moment, on ne pourrait pas se partir de cette limitation d'âge-là pour dire qu'il serait possible ou pas.
Ouais. Alors maintenant que nous avons cet avant-projet de constitution, est-ce qu'on peut dire qu'on a fait un pas, qu'un pas est franchi vers la fin de la transition qui dure depuis près de 3 ans maintenant?
Oui, c'est un pas extrêmement important parce qu'il sanctionne donc la présentation du texte fondamental qui va permettre les élections, les scrutins qui doivent venir. Pour ce juste qui est attendu depuis très longtemps, on verra effectivement comment tout cela va aller et à quel rythme.
Est-ce qu'il y a un point particulier dans la Constitution qui la rendrait meilleure?
Ce que je trouve extrêmement important, c'est justement le système de parrainage. Parce que ça permet dès le départ d'asseoir la légitimité de ceux qui veulent se présenter aux charges électives. Et l'autre innovation, je trouve bien, c'est le fait de permettre aux élections nationales les candidatures indépendantes, même si moi j'aurais préféré justement que pour ce qui est de la présidentielle, qu'il soit laissé spécifiquement aux partis politiques de présenter des candidat, mais voilà, ça reste donc une discussion, c'est un avant-projet de constitution. Les contributions seront prises au fur et à mesure et puis le référendum permettra de valider ou pas cette proposition.
C'était Cabinet Fofana, analyste politique. Une étude historique menée en Afrique du Sud et en Ouganda a permis de faire progresser la lutte contre le VIH-Sida. Les chercheurs ont découvert qu'un traitement injectable s'est avéré efficace à 100% pour prévenir les nouvelles infections chez les femmes. Le récit est de Thierry Kaouré.
L'étude a porté sur environ 5 000 jeunes filles et femmes en Afrique du Sud et en Ouganda. Les chercheurs n'ont révélé aucune nouvelle infection parmi celles qui ont reçu le médicament injectable, contre un taux d'infection d'environ 2% chez celles qui ont reçu quotidiennement des comprimés de prévention. Les injections, produites par le fabricant américain Gilead et vendues sous le nom de Sanlinza, sont déjà approuvées pour le traitement du VIH aux États-Unis, au Canada, en Europe et ailleurs. Tandeka Nkosi est la coordonnatrice des essais cliniques de la Fondation Desmond Tutu pour la santé.
Nous avons vu que l'adhésion n'est pas toujours la meilleure lorsqu'il s'agit de la pilule pour différentes raisons. Le temps, la possibilité d'aller chercher ces pilules dans les cliniques ainsi avec l'injectable et le traitement biannuel, les participants ont plus de choix. En outre, nous savons que lorsque les participants prennent ces pilules de prophylaxie, pré-exposition, il y a un sentiment de stigmatisation lorsque les gens pensent qu'ils sont séropositifs et qu'ils n'essaient pas nécessairement de prévenir le VIH.
Les résultats publiés dans le New England Journal of Medicine ont conduit à l'arrêt prématuré de l'étude en raison de son succès. Tous les participants se sont vus alors proposer les injections, également connues sous le nom de lenacapavir. Selon les experts, si les pilules quotidiennes telles que Truvada ou Descovid de Gilead sont efficaces, leur utilisation régulière reste un défi, puisque seulement 30% des participants adhèrent au régime au fil du temps. Il souligne la nécessité de trouver des solutions innovantes en matière de prévention du VIH. Oluwetu Kemele, agent de terrain communautaire.
La solution injectable sera vraiment adéquate pour les jeunes filles parce qu'elles viendront tous les 6 mois au lieu de prendre une pilule tous les jours. Ce sera donc presque comme si vous veniez chercher votre contraceptif. Donc pour elles, ce sera vraiment génial. Cela augmentera le nombre de personnes qui viendront se faire injecter, ce qui fera baisser le taux de VIH dans la communauté.
Les nouvelles injections constituent une alternative prometteuse. Toutefois, leur coût suscite des inquiétudes. Gilead a déclaré qu'il était trop tôt pour déterminer le prix de la prévention dans les pays pauvres. L'Agence des Nations Unies pour la lutte contre le sida a exhorté Gilead à partager le brevet de Sanlinza avec un programme soutenu par les Nations Unies afin de permettre la production des génériques et garantir l'accessibilité dans les pays les plus pauvres. Actuellement, le traitement contre le VIH coûte plus de $40,000 par an aux États-Unis. Un autre vaccin préventif contre le VIH, Apretude, administré tous les 2 mois, est approuvé dans certains pays, y compris dans la région africaine. Mais il coûte $180 par patient et par an et reste trop cher pour la plupart des pays en développement. Le défi consiste désormais à faire en sorte que ces nouveaux traitements efficaces soient accessibles à ceux qui en ont le plus besoin.
Au Tchad, les partis politiques d'opposition et la société civile s'en vont debout contre le nouveau découpage électoral. Selon eux, ce découpage envisagé va fausser la répartition des députés et sénateurs pour les élections à venir et mettre à mal le vivre ensemble au Tchad. Pour en savoir plus, Jean-Roger Bion a joué à N'Djamena, la capitale, l'analyste Ahmad Mahamat Hassan.
La loi crée de nouveaux départements et la loi dit que lui a attribué un siège de député, qu'il soit sous-habité ou densément habité. Ce qui fait que les zones de l'extrême nord, à la frontière avec la Libye, en territoire, c'est plus grand que la France. Et c'est la moitié du Tchad, mais sous-habité avec 2% de population, on leur donne au total 21 députés. Et certaines régions du sud, comme le Mayo-Kébi, fait 18% de la population, on leur donne le même nombre de députés. Alors ça pose un problème de représentation nationale. Le gouvernement fait un alliage entre le territoire et la densité démographique. Même les territoires sous-habités, on leur accorde une représentation à l'Assemblée nationale. Et ceux qui sont densément habités auront par tranche de 90 000 habitants un député supplémentaire. D'où la question de l'inégalité dans la représentation nationale.
Alors professeur Ahmad Hassan, vous en tant que contestataire du projet de loi sur le découpage électoral, que proposez-vous avec les partis politiques et la société civile?
Le gouvernement de la 5e République porte le quotient électoral à 90 000 habitants. C'est traduit politiquement comme il a voulu doter excessivement le nombre de députés dans les régions septentrionales et donc voulant contrôler l'Assemblée nationale future par une majorité qualifiée de députés et de sénateurs et défavorisant la zone du Sud. C'est un problème très grave. Et donc la société civile a réagi, les partis politiques ont réagi, des mémorandums circulent, des pétitions circulent et le débat n'est pas terminé. Et je crois que le gouvernement sera obligé de retirer cette loi pour pouvoir chercher un consensus national avant de la réintroduire à l'organe qui fait office de représentation nationale, le CNT, Conseil national de transition, en attendant. Parce que sur cette base, si les élections se déroulent, le Tchad va entrer. Et n'oublions pas que le Tchad est réputé pour le recours à la violence, pour des règlements de divergences politiques.
Au final, vous craignez que la cohésion sociale soit mise à rude épreuve et qu'il se manifeste au Tchad un repli identitaire ?
Le Tchad est entré dans un cycle de violence et dans un repli identitaire très grave. Au-delà des deux blocs, un nord de culture arabo-musulmane et un sud de culture négro-chrétienne et africaine, il y a un problème. Cette fois-ci, c'est par ethnie et par clan que chaque ethnie voulait s'affirmer, avoir une circonscription administrative de niveau départemental susceptible d'avoir une représentation nationale d'un député ou d'un sénateur à l'Assemblée nationale. Et ça pose un problème très grave de déchirure non et de division où les zones du sud sont défavorisées par rapport aux zones du nord, sous-habitées, mais d'une manière représentées excessivement à l'Assemblée nationale. Et les régions du sud, densément habitées, sont sous-représentées ou à égalité. Et ça pose un problème de gouvernance et d'inégalité dans la gestion des affaires publiques.
C'était l'analyste politique Ahmad Mahmoud Hassan. Le président américain Joe Biden s'étant retiré de la course à la réélection, le candidat républicain Donald Trump se concentre sur son adversaire probable, la vice-présidente Kamala Harris. Aline Barros, journaliste de la VOA spécialisée dans les questions d'immigration, explique que le parti républicain de Donald Trump s'en prend au travail de Kamala Harris sur les questions d'immigration, la qualifiant de tsar de la frontière. Le récit est de John Lyndon.
Le candidat républicain à la présidence Donald Trump porte maintenant son attention sur la vice-présidente Kamala Harris, son adversaire probable dans la course à la présidence, en critiquant son bilan en matière d'immigration.
Elle veut que tout le monde soit amnistié. Joe Biden l'a ensuite nommé tsar à la frontière. Et c'est là que les choses ont vraiment mal tourné. Elle a lancé une invasion colossale d'étrangers illégaux dans notre pays. Elle a dit, entrez, vous vous souvenez?
L'immigration illégale est un sujet majeur pour les électeurs républicains et la campagne de Trump tente de lier Harris à la politique d'immigration de Biden. Teresa Cardinal Brown est conseillère principale en matière d'immigration et de politique frontalière au Bipartisan Policy Center.
Elle n'a jamais été nommée tsar de la frontière. En fait, la frontière n'était pas du tout sa priorité.
Au début du mandat de Joe Biden, Kamala Harris a été chargée de réduire l'immigration à la frontière sud des États-Unis en collaboration avec trois des pays d'Amérique centrale, le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Écoutons à nouveau Teresa Brown.
Elle était chargée d'élaborer une stratégie et d'obtenir des engagements en matière d'aide au développement et d'investissement dans ces trois pays du Triangle du Nord afin de contribuer à réduire les facteurs dits d'incitation à la migration.
Après que Joe Biden a demandé à Kamala Harris de mener une stratégie visant à améliorer les conditions de vie et à décourager les migrants de quitter leur pays, le message de Mme Harris en matière d'immigration est devenu plus strict.
Je veux être clair pour les personnes de cette région qui envisagent de faire ce dangereux voyage à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ne venez pas, ne venez pas.
Selon Donald Trump, le bilan de Kamala Harris montre qu'elle est ultra-libérale en matière d'immigration.
Kamala a voté en faveur des villes sanctuaires meurtrières.
La semaine dernière, les républicains de la Chambre des représentants ont adopté une résolution condamnant l'administration Biden et sa, je cite, « tsar de la frontière Kamala Harris » pour ne pas avoir réussi à sécuriser la frontière. L'administration Biden affirme que des progrès ont été réalisés à la frontière en signalant que le nombre d'arrestations en juin pour entrée illégale depuis le Mexique était le plus bas de tous les mois depuis sa présidence.
C'est ainsi que se termine Le Monde aujourd'hui, présenté par Nanit Talani, à la réalisation Fatou Alimati Kalala. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Restez avec nous pour des reportages et des analyses approfondies tout au long de la journée. Pour plus de détails et de nouvelles en continu, visitez notre site web à voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, La Place X et Instagram. Passez une excellente journée à l'écoute de VOAfrique. Thank you.